Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre La Felicità e una Celta in Viaggio per trovare il coraggio di ascoltare la propria voce est un livre de non-fiction à mi-chemin entre le reportage autobiographique et la réflexion sur la croissance personnelle. Sara Melotti y raconte un tournant de sa vie marqué par l'abandon d'une carrière confortable dans la photographie de mode à New York et par un questionnement profond sur la beauté, les attentes sociales et la cohérence personnelle. Le livre ne propose pas une méthode de développement personnel au sens strict, mais une exploration incarnée de ce que signifie choisir sa voie en restant fidèle à sa sensibilité. Son objectif est clair, interroger le malaise contemporain, notamment face aux réseaux sociaux, et montrer que l'épanouissement passe par l'écoute de sa propre voix plutôt que par la validation extérieure. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un récit autobiographique sur une rupture professionnelle et existentielle. Le cœur du livre repose sur le parcours de Sara Melotti, qui quitte une situation apparemment réussie pour remettre en cause un modèle de vie qu'elle juge de plus en plus incompatible avec ses valeurs. Ce point est essentiel, car le texte ne parle pas de changement de manière abstraite, il prend appui sur une décision concrète, coûteuse et irréversible. L'auteur transforme ainsi une crise personnelle en matériau de réflexion sur le sens du travail, la sécurité matérielle et la valeur d'une vie alignée avec ses convictions. Cette dimension autobiographique donne au livre sa crédibilité, mais aussi sa limite assumée. Il s'agit d'un témoignage, non d'un protocole de transformation. Le lecteur comprend que l'enjeu n'est pas seulement de réussir, mais de déterminer ce que réussir veut dire lorsque les critères habituels ne suffisent plus. Le récit sert donc d'exemple d'un basculement intérieur avant d'être un récit d'aventure ou une confession intime. Deuxièmement, la critique des normes de beauté et de la logique de comparaison sociale. Un axe central du livre est la remise en question des standards de beauté irréels que l'auteur relie à son travail dans la photographie de mode et plus largement à la culture visuelle contemporaine. Le propos n'est pas de condamner la photographie ou les images en soi, mais de montrer comment certains environnements peuvent fabriquer des repères artificiels et alimenter un sentiment d'insuffisance. Cette réflexion est importante parce qu'elle relie une expérience individuelle à un problème collectif. Beaucoup de lecteurs peuvent reconnaître dans ces diagnostics la pression diffuse exercée par des modèles esthétiques et sociaux omniprésents. Le livre invite ainsi à distinguer l'apparence de la valeur réelle et à voir comment la comparaison permanente peut détourner une personne de ses désirs propres. En cela, il fonctionne comme une critique culturelle plus que comme un simple récit de reconversion. La question n'est pas seulement de se sentir mieux, mais de comprendre d'où viennent les injonctions qui fragilisent l'estime de soi. Troisièmement, le rapport aux réseaux sociaux comme symptôme d'un mal-être contemporain, le livre accorde une place explicite aux réseaux sociaux, non comme sujet technique, mais comme révélateur d'une époque dominée par l'exposition de soi, la validation et l'accélération des jugements. Sara Melotti y examine ce que ces plateformes font à la perception de la réussite, de la beauté et du bonheur, en soulignant la difficulté de rester authentique dans un environnement qui récompense souvent l'image plus que la substance. Cette approche est pertinente parce qu'elle évite le discours simpliste de rejet total. Le problème n'est pas uniquement l'outil, mais la manière dont il structure les attentes et les réflexes sociaux. Le livre montre alors que l'épuisement contemporain peut naître du décalage entre vie vécue et vie mise en scène. Cette analyse intéressera particulièrement les lecteurs qui ressentent une fatigue face à la performance permanente. Elle donne au récit une portée générationnelle, car elle relie l'histoire personnelle de l'autrice à une expérience largement partagée de pression numérique et de dispersion de l'attention. Quatrièmement, choisir la fidélité à soi plutôt que la conformité aux attentes extérieures. L'idée la plus structurante du livre est que la félicité n'est pas un état passif, mais le résultat d'un choix conscient, parfois difficile. Ici, le mot « choix » ne renvoie pas à une simple préférence, mais à une décision éthique: accepter le risque de déplaire, de perdre en confort ou de rompre avec une trajectoire attendue afin de rester fidèle à sa propre vision du monde. Le livre insiste sur le courage nécessaire pour écouter sa voix intérieure, ce qui en fait un texte sur l'autonomie plus que sur l'optimisme. Cette insistance sur l'intériorité donne au livre une portée pratique, car elle pousse à examiner ce que l'on tolère par habitude, peur ou souci d'approbation. Elle a aussi une dimension critique. Beaucoup d'existences sont façonnées par des attentes étrangères que l'on finit par confondre avec ses propres désirs. Le livre propose donc une réévaluation du bonheur comme cohérence personnelle et non comme conformité à un modèle socialement reconnu. En dernier lieu, un livre de témoignages inspirant plutôt qu'un manuel de développement personnel, ce qui distingue La Felicità et una Celta de nombreux ouvrages du même genre. C'est son statut de témoignage littéraire et de reportage introspectif plutôt que de guide méthodologique. Le livre n'organise pas son propos autour d'exercices, d'étapes ou de techniques reproductibles. il mise plutôt sur la force d'une trajectoire racontée avec franchise. Cette forme a un intérêt précis, elle permet au lecteur de s'identifier sans avoir l'impression de suivre une prescription simplificatrice. Le texte gagne ainsi en authenticité et en nuance, car il accepte les hésitations, les contradictions et les zones de transition qui accompagnent un vrai changement de vie. Son efficacité repose moins sur la promesse de résultats immédiats que sur une capacité à redonner du sens, à réveiller des questions enfouies et à montrer qu'une autre direction est possible. C'est aussi ce qui explique son attrait pour les lecteurs. En période de doute, il ne leur impose pas une solution, mais leur offre un cadre de réflexion incarné et très rédible. En conclusion, La Felicita et Una Celta s'adressent surtout aux lecteurs qui traversent une phase de doute, de réorientation ou de fatigue face aux attentes sociales, en particulier celles liées à l'image, au travail et aux réseaux sociaux. Il peut toucher ceux qui cherchent moins des conseils pratiques que la confirmation qu'un changement de vie est pensable, sans trahir sa sensibilité. Son intérêt principal réside dans la combinaison d'un récit personnel honnête et d'une réflexion culturelle sur la place de l'apparence dans le monde contemporain. Là où beaucoup de livres de développement personnel multiplient les injonctions, celui-ci se distingue par un ton direct, une perspective autobiographique et une capacité à relier une décision intime à des enjeux plus larges. Le lecteur y trouvera une remise en question utile des critères de réussite imposés de l'extérieur, ainsi qu'une invitation à clarifier ses propres priorités. Sa force est donc moins de donner des réponses définitives que de faire naître un doute fécond sur la manière dont on choisit de vivre. Si vous souhaitez soutenir Sara Melotti, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.